même très heureux d'accueillir James Hunt, qui est gentiment parmi nous, nous parler. Donc, James Hunt est pasteur pour l'Église réformée, pasteur à Paris, dans l'Inde aussi.
Je vous expliquerai tout ça.
Et puis, elle est aussi depuis 2011 ou 2012.
2011, oui.
2011, chargée pour la Fédération pour les Chambres de France des relations avec les églises chrétiennes, enfin avec les églises chrétiennes en général, et donc notamment l'Église catholique. Et donc, elle vient nous parler d'écuménisme, des manières qu'on a de dialoguer ensemble, puisqu'elle en a une longue expérience. Et puis, elle devait venir au départ avec le Père Legrand, qui est dominicain, et puis qui finalement a pas pu venir. Et aussi, je dois dire que cette initiative d'une petite séquence sur l'écuménisme, on la doit à Antonin, qui est particulière à Jérusalem, mais qui n'en pas à pied, voilà. et qui a proposé ça. Et donc, on laisse la parole. Merci.
Merci. Et merci de votre invitation. Je sais que vous avez invité Hervé Legrand, qui, lui, ensuite, m'a invité, moi. Et puis, ensuite, il m'a posé un lapin. Et je pense... Bon, voilà, c'est comme ça. Il ne m'a pas demandé il y a très longtemps. Je lui ai donné des petits gâteaux sucrés à Noël. Puis il dit, Jane, est-ce que je pourrais vous demander un service? Je me dis... Voilà. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous, mais je ne suis... J'ai aucune illusion non plus sur mes compétences. Je ne suis pas Hervé Legrand en féminin. Je suis pasteur protestante. Je suis responsable à la Fédération protestante de France pour les relations œcuméniques. Je sais que cela... Bon, vous ne savez pas du tout ce que c'est la Fédération protestante de France. Les relations œcuméniques, ça veut dire quoi ? Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu cela. Je vais vous... dire un tout petit peu qui je suis et ce que je fais. Mais tel que Hervé Legrand m'a présenté cette soirée, ça m'a un tout petit peu effrayée à l'époque et je me suis dit, il va falloir que tu passes. Il m'a dit, bon, on va faire quelque chose sur la déclaration commune, sur la justification. Déjà, je vous vois. Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et finalement, ce soir, je vais vous parler beaucoup de quelque chose qui s'appelle le consensus différencié. C'est une façon de parler du dialogue œcuménique. C'est une façon un peu très technique, hein, mais on va regarder ça un peu ce soir. Je vais, ce qui veut dire qu'on aura à peu près 5 temps. Je vais vous dire un tout petit peu de choses... sur moi. Je vais ensuite vous parler un peu du consensus différencié. Je vais vous dire pourquoi on en a besoin, peut-être, et puis ce que c'est, peut-être. Et ensuite, je vais vous donner dans un deuxième temps ou un troisième temps, si on veut, quelques exemples du consensus différencié. Et je vais parler de 3 documents en particulier. Quelque chose qui s'appelle la Concorde de Leuenberg, qui est un concorde entre des églises réformées et des églises luthériennes en Europe, qui a été signé en 1973. Je vais aussi vous parler de la fameuse déclaration commune sur la justification entre le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et la Fédération luthérienne mondiale, qui a été signée en 1999. Là, vous avez peut-être un peu plus de chance d'en avoir entendu parler, peut-être. Je vais vous parler un tout petit peu de ça. Et ensuite, dans un dernier temps, je vais parler un tout petit peu des critiques qu'on peut faire, des limites de cette méthode du consensus différencié. Je ne vais pas aller énormément en profondeur, en partie parce que j'en suis bien incapable, je ne suis pas Hervé Legrand, je ne connais pas tous ces textes, et lui, il aurait pu vous donner vraiment un regard très, très pointu sur ces différents thèmes. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, il y aura un temps où vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'un protestant fait quand elle rêve ou quand elle prie ou voilà, des choses comme ça. Vous pouvez me poser ce genre de questions. Je suis ouverte et prête à peu près tout. Mais je ne vais pas vous livrer la recette de cuisine pour le gâteau de Noël de ma mère. Mais bon, à part ça, je vous livrerai à peu près tout. Et puis peut-être on aura le temps en fin de séance que je vous livre un peu une théorie des religions autour du plateau de fromage. Mais on va voir s'il y a le temps pour ça. Voilà. Je suis venue aussi avec quelques plages publicitaires et je ne vais pas vous quitter sans vous avoir harcelé avec des petites publicités. Voilà. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, d'abord, je vais un tout petit peu parler de moi. Vous entendez, j'ai un petit accent. Il est parfois très anglais, il est parfois un peu suisse aussi. Je suis en France depuis 25 ans. Je suis pasteur aussi. J'étais ordonnée en septembre 2011 et je suis arrivée en France en octobre. Je suis d'origine anglaise. Jane, c'est un prénom anglais. Mais mon nom de famille... Strands, je suis fille d'un réfugié de guerre. Mon père était d'origine allemande juive et il est arrivé en Angleterre en 1939, en avril 1939. Je suis anglaise, mais je ne suis pas anglicane. J'ai déjà dit ça un tout petit peu à table. Je viens d'une église réformée aussi en Grande-Bretagne, on va dire en Angleterre plus parce que en Grande-Bretagne, c'est un peu comme en France, on parle de la France, et puis ensuite on découvre qu'il y a aussi l'Alsace. Soi-disant, ça fait partie de la France, sauf que finalement, il y a le Concordat, et surtout au niveau ecclésial, cela ne fait vraiment pas partie de la France. C'est compliqué. En Grande-Bretagne, c'est pareil. On pourrait dire la reine de l'Angleterre, quand elle va en Écosse, elle change de confession. Quand la reine de l'Angleterre, qui est la tête de l'église anglicane, quand elle passe ses vacances à Balmoral en Écosse, elle va dans une église réformée, qui est de l'église de l'Écosse, parce qu'en Écosse, l'église d'État, l'église soi-disant majoritaire, est une église réformée, une église presbytérienne. Vous voyez déjà que l'œcuménisme, c'est compliqué. Je suis issue alors d'une petite église, on appelle ça une église non conformiste, parce que cette église n'était pas conforme à la loi qui a établi le roi ou la reine de l'Angleterre comme la tête de l'église et les pasteurs qui étaient dans l'église à l'époque et qui ont refusé cela ont été. On a dit que ces pasteurs ne sont pas conformes. Et, c'est aller un peu vite hein, sur l'histoire, mais c'est un peu ça. Et nous étions avec, d'ailleurs, les catholiques en Angleterre aussi, on ne va pas dire exactement persécutés, mais de toute façon opprimés. Les catholiques n'avaient pas le droit d'être, n'ont toujours pas le droit d'être roi ou reine de l'Angleterre. Je ne suis pas certaine non plus si les non-conformistes pourraient être roi ou reine non plus. N'avait pas non plus, jusqu'au XIXe siècle, n'avait pas le droit d'être élu au Parlement britannique. C'était aussi le cas pour les non-conformistes et en partie pour des juifs aussi. Jusqu'en 1876, je pense, catholiques et les autres protestants aussi n'avaient pas le droit non plus de faire des études à Oxford et à Cambridge. Et on voit pendant le 19e siècle, des collèges catholiques et non conformistes s'installaient à Oxford et à Cambridge suite à des lois qui sont promulguées à ce moment-là. Vous voyez, ce n'est pas seulement la France qui est compliquée en termes de religion, mais dans mon pays d'origine, on ne parle presque jamais de laïcité. La France est vraiment un pays particulier pour cela. Je suis une passionnée de l'œcuménisme plus qu'une spécialiste, mais je me rends compte qu'en étant un peu spécialiste maintenant, parce que je suis passionnée, j'occupe des postes œcuméniques et du coup, j'ai aussi certaines connaissances, peut-être un certain savoir dans ce domaine, mais ce qui me passionne dans ce thème, c'est tout ce qui peut naître de la compréhension, de la mutuelle, de quand on fait connaissance, la connaissance mutuelle, on appelle ça, tout ce qui peut naître de la connaissance mutuelle de quelqu'un différent qui croit dans le même Dieu que moi, mais qui croit dans ce même Dieu de Jésus-Christ d'une autre façon que moi. Et je crois beaucoup à la pluralité des compréhensions et aussi à la créativité théologique qui peut naître de la rencontre entre des personnes, mais aussi à la rencontre entre des églises et des communautés ecclésiales qui peuvent, de tout ce qui peut naître de cela. Et je crois aussi à la richesse de la connaissance mutuelle qui nous aide à dépasser les stéréotypes et nous invite à un approfondissement spirituel et éventuellement peut-être même à un échange des dons. Tout cela, j'ai grandi dans une paroisse œcuménique en Angleterre, mais je vois que cette paroisse œcuménique se disait œcuménique, mais n'était pas si œcuménique que ça. C'est une paroisse mixte entre anglicans, réformés et méthodistes à l'époque. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup marqué dans ma jeunesse. On a construit, on a fermé des églises, des temples, si vous voulez, pour créer cette nouvelle église en plein centre-ville, qui était sur le centre commercial. On était au premier étage, on regardait sur le centre commercial. On avait tout était ouvert toute la semaine pour toutes sortes d'associations, etc. Et aussi pour toutes sortes de temps de prière, etc. Voilà, ça c'est assez, je pense, sur moi. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Si je retrouve mes papiers, j'espère que ça va être à peu près compréhensible. Alors, le thème de ce soir, c'est le consensus différencié. Déjà, j'imagine que vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, et vous avez raison de ne pas être au courant de ce que c'est. C'est pas un terme dont on entend parler beaucoup en dehors de l'œcuménisme. Et je dirais même, ce qui m'étonne, on n'entend pas beaucoup parler non plus dans le domaine de la diplomatie. Pourtant, les gens qui soutiennent et qui font vivre cette démarche, cette méthodologie, vont dire que c'est une démarche qui a existé finalement, de toute façon, depuis le début de l'Église ou des Églises, si on veut. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. On n'a pas un paperboard ici, mais on va essayer de faire... Ah oui, voilà, je vais peut-être venir par là. Alors. S'il y a un... Il y a même un truc. Oui, c'est bien. Oui, on va voir. À peu près. OK, on va voir. Peut-être que je n'aurai pas besoin. Et je pense que Hervé a assez bien choisi ce thème de... du consensus différencié. Il ne savait pas que le pape allait annoncer un voyage en Suède cette semaine. Et cela est en lien avec notre thème, parce que le voyage du pape n'aurait pas été possible, je pense, si on n'avait pas eu tout le mouvement œcuménique du XXe siècle. Et je pense que l'Église de Suède n'aurait pas voulu non plus accueillir le pape s'il n'y avait pas eu les différentes démarches autour de ce qu'on appelle la déclaration commune concernant la justification par la foi. C'est un terme, c'est un domaine clé, une doctrine clé de la réforme de Luther au XVIe siècle. Et il y a tout un travail autour de cela que nous allons visiter un tout petit peu, pas énormément en profondeur, mais on va visiter tout cela. Je pense que cette visite du pape pas non plus à n'importe quel moment, n'est-ce pas ? Il va arriver à Lund, en Suède, qui est une ville frontière. Je ne sais pas si vous êtes allé là-haut, mais c'est impressionnant. Lund, il faut traverser un très très long pont entre le Danemark et la Suède pour arriver à Lund. C'est vraiment une ville frontière. C'est une ville aussi qui appartenait pendant longtemps, non pas à la Suède, mais aussi au Danemark. Hein. C'est une ville sur laquelle on a eu des batailles, etc. Et je pense que cela représente quelque chose, d'y aller un 31 octobre, qui est souvent fêté comme la fête de la Réforme, et qui est juste une année avant le 500e anniversaire de la Réforme. Alors, qu'est-ce que c'est que le consensus différencié ? Je vais essayer de vous expliquer ça, et j'ai essayé de faire une sorte de dessins non animés pour essayer d'expliquer ce que c'est. Un consensus, on sait à peu près ce que c'est. Un consensus, c'est quand on est d'accord. Mais on n'est pas toujours complètement d'accord quand on est d'accord. Et un consensus différencié veut dire qu'on n'est pas, complètement d'accord, mais on est prêt à vivre avec des choses, on est prêt à accepter qu'il y a des choses autour d'un accord en principe. On est prêt à vivre avec cet accord qui est fondamental. On est prêt à vivre avec les choses qui sont autour, qui ne sont pas forcément dans l'accord principal. Voilà. Et pourquoi aurait-on besoin d'un consensus différencié si on pouvait avoir un consensus? Alors, vous avez peut-être des idées, parce que ce serait simple, n'est-ce pas? L'église A va tout simplement convaincre l'église B que l'église A a raison et que l'église B a tort. Et puis, du coup, parce que l'église B va, dans la conversation avec l'église A, reconnaître son tort, tout le monde de l'église B va se convertir à l'église A. Ça devrait marcher comme ça, n'est-ce pas? Vous pensez que ça marche comme ça? Bon, le mouvement œcuménique moderne est en route depuis environ 1910. Je tiens à le dire, comme protestante, quand on est catholique, on a un tout petit peu tendance à penser que le mouvement œcuménique moderne existe seulement depuis Vatican II. Ça remonte à un tout petit peu plus loin que ça. Et finalement, on se rend compte qu'il y a très peu d'églises qui arrivent à dire « on va, voilà ». On va nier tout ce que nous avons été pendant je ne sais pas combien de centaines d'années ou combien de décennies. On va se mettre, on va admettre que l'autre a raison, etc. On peut déjà, même si une église pourrait admettre qu'elle a tort et que l'autre a raison, pour toutes sortes de raisons culturelles et politiques et contextuelles, ce serait très très difficile pour cette église de se mettre ensemble avec une autre église. Et il y a aussi des raisons tout simplement pratiques pour que, qui rendent cela très difficile. J'ai déjà vécu dans ma vie deux unions d'églises. Ça prend un temps fou, juste le travail sur les statuts. Je ne sais pas si quelqu'un est en train... Non, vous êtes plutôt littéraire, etc., et scientifique. Vous n'êtes pas dans le droit, quelqu'un, ici? C'est... Non ? Voilà, voilà, mais voilà. Déjà, le droit canonique, c'est quelque chose entre catholiques et anglicans, ou entre catholiques ou entre anglicans et orthodoxes. Mais chaque église a aussi une discipline, et c'est juste pour réécrire les statuts. Ça peut prendre 5 ans ou 10 ans. Hein. C'est pas un processus court. On pourrait aussi imaginer un autre processus. Je vous donne ces deux, c'est vraiment très très schématique, hein, mais on pouvait penser par exemple à ce que les deux églises qui sont en dialogue au lieu d'essayer de convaincre l'autre. Puis dans le premier schéma, vous avez compris pourquoi est-ce que l'église A ne deviendrait pas l'église B. Je veux dire, c'est voilà, pourquoi une église devrait avoir aussi la puissance sur l'autre pour convaincre, pour dire « venez chez nous, c'est quand même meilleur, venez chez nous, c'est quand même meilleur ». Ça devient un dialogue de sourds après un certain temps. Mais deuxième schéma, on pourrait imaginer que deux églises en dialogue sont tellement convaincues qu'elles doivent vivre ensemble que sur des questions de différences doctrinales, elles essayent de créer ensemble une nouvelle synthèse de la doctrine, qui n'est pas l'ancienne doctrine d'une église, pas l'ancienne doctrine de l'autre église, mais qui est une nouvelle synthèse de la doctrine. Vous pouvez imaginer combien de temps cela prendrait, et aussi dans toutes ces questions de dialogue, est-ce que les gens vont recevoir cela ? Est-ce que les gens vont vouloir de ce que des théologiens un peu excentrés, presque pires que des mathématiciens, hein, les gens qui entrent en œcuménisme quand même, hein, c'est terrible. Alors, en partie à cause de cela, on essaye de, surtout depuis Vatican II, depuis l'entrée massive et très positive de l'Église catholique en œcuménisme, à partir de Vatican II, à partir du début et plus la fin des années 60, on voit émerger cette autre méthode. En grande partie parce que l'Église catholique romaine, ne veut pas perdre son identité confessionnelle dans le dialogue. Et c'est aussi, suite à Vatican II, l'Église, jusqu'à Vatican II, vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle le Conseil œcuménique des Églises ? Peut-être pas. Alors, le Conseil œcuménique des Églises, fondé en 1948, mais en gestation entre les deux, en train d'être formé entre les deux guerres, aujourd'hui, cette institution regroupe 348 églises membres basées à Genève. J'y ai travaillé pendant presque 10 ans. Des églises orthodoxes, presque toutes les églises orthodoxes, deux ou trois ne sont plus membres, mais presque toutes les églises orthodoxes et les églises orthodoxes orientales, c'est-à-dire syriaques, arméniennes, éthiopiennes, sont membres du Conseil œcuménique des églises. Les églises anglicanes, les églises protestantes, réformées, quelques églises évangéliques, quelques églises pentecôtistes, mais les églises, voilà, à travers le monde. On va dire du protestantisme historique, de l'orthodoxie, de l'anglicanisme, avec quelques églises pentecôtistes et évangéliques. Le Conseil œcuménique des églises a beaucoup plus insister sur le dialogue multilatéral. Un des produits de ce... Et a travaillé beaucoup dans ce sens à travers une commission œcuménique importante qui s'appelle la commission Foi et Constitution. Et en 1968, l'Église catholique devient pleinement membre de cette commission Foi et Constitution et reste encore pleinement membre de Foi et Constitution aujourd'hui. Un des premiers membres de l'Église catholique dans Foi et Constitution était un certain Joseph Ratzinger. J'ai encore une photo, j'avais une photo de lui en train de boire une bière, il me semble, que j'avais trouvée dans les archives. Voilà, juste avant que notre secrétaire général de l'époque aille lui rendre visite, on lui a dit « Voilà, tu peux lui prendre cette photo-là, ça va lui faire plaisir, on va quand même donner un cadre à ça. » Voilà, des choses comme ça. Le Conseil œcuménique des Églises avait cette volonté de vouloir faire travailler toutes les Églises ensemble, ou toutes les Églises qui étaient membres du Conseil œcuménique ensemble. Mais quand l'Église catholique entre vraiment en force dans le mouvement œcuménique au milieu du, vers la fin du XXe siècle, un autre modèle de l'œcuménisme commence à sortir, et c'est le modèle vraiment des dialogues bilatéraux. L'Église catholique est très forte dans ce modèle de dialogue bilatéral, et bilatéral, ça veut dire entre une Église et une autre Église. Alors l'Église catholique en France a cinq dialogues bilatéraux juste au niveau de la France. Et au niveau international, l'Église catholique a... Alors il y a différents niveaux de dialogues bilatéraux. En France, il y a des dialogues entre les protestants luthéro-réformés et l'Église catholique. On est en train de traiter le mariage mixte, par exemple, hein, en ce moment. C'est plutôt pastoral comme thème. Il y a aussi un dialogue entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes en France. Mais il y a, au niveau international, aussi un dialogue catholique-orthodoxe. Il y a un document qui s'appelle le document de Ravenne qui est sorti de tout ça. Voilà. Et dans les dialogues bilatéraux, on va vraiment au cœur des questions de doctrine, au niveau international en particulier. Au niveau national, nous avons tendance à traiter plutôt des questions soit de connaissance mutuelle, par exemple l'Église catholique et l'Église baptiste en France ont fait un travail remarquable sur la question de Marie. Ça vaut vraiment la peine d'être lu, c'est relativement peu connu, mais c'est un très beau travail qui a été publié il y a 4-5 ans, là maintenant, je pense. Et c'était vraiment un travail de connaissance, mais aussi de confiance. On se connaît maintenant assez bien pour pouvoir aborder un sujet très difficile entre baptistes et catholiques, la question de Marie et de sa place. Mais on a tendance à traiter plutôt des choses pastorales. Comment est-ce qu'on peut gérer les enterrements ensemble dans des familles mixtes? Comment est-ce qu'on gère les mariages mixtes? Les choses comme ça. Et entre l'Église catholique et les églises évangéliques en France en ce moment, on est en train d'essayer d'aborder la question du baptême. Vous pouvez imaginer peut-être que c'est compliqué parce que beaucoup de gens qui entrent dans des églises évangéliques étaient une fois baptisés catholiques quand ils étaient bébés et n'ont peut-être jamais fréquenté une église depuis. Mais leurs parents ont baptisé ces personnes. Donc vous pouvez voir, ça c'est une question en même temps pastorale, mais aussi très théologique, ça fait toucher à plein de choses. Alors, fin des années 80, il y a une nouvelle volée de dialogue bilatéral au niveau international qui doit commencer entre les luthériens et les catholiques au niveau mondial. Et un certain Joseph Ratzinger n'est pas encore cardinal pour la doctrine de la foi, il est seulement archevêque. Et on le consulte pour dire, nous allons lancer ce dialogue, qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Parce qu'on voulait de nouveau avoir une approche pastorale, regarder éventuellement peut-être des questions de mariage ou des questions de célébration des cultes ou des choses comme ça. Et il a dit non. Et il a dit, je pense qu'il faut vraiment oser un thème théologique. Il faut oser le thème de la justification par la foi, qui est un thème sur lequel on s'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on s'est entretué au moment de la réforme. Hein. Voilà. Les conceptions de cela, c'était... très très difficile. Et il a dit, il faut vraiment oser le grand paquet au lieu de bricoler autour. En même temps, il y a d'autres dialogues qui sont en cours. Pas tous les dialogues bilatéraux sont menés par l'Église catholique. Et il y a un dialogue qui était en cours depuis à peu près 400 ans entre les réformés et les luthériens, qui sont extrêmement proches, qui devraient mieux vivre ensemble, mais qui n'arrivaient jamais à, aboutir à un accord. Et cela est très compliqué, en particulier en Allemagne. Si vous avez vu une carte de l'Allemagne, disons, de 1800, après le congrès de Vienne. Je ne sais pas si vous avez un vague souvenir de ça dans vos cours d'histoire à l'école. Vous regardez la carte de l'Allemagne, une carte de l'Allemagne en 1817, ouais. Et puis vous avez énormément de différents royaumes et principautés, et chaque royaume et chaque principauté est d'une autre confession protestante. Certains royaumes sont aussi catholiques, hein. L'Allemagne est quand même à peu près à 50% entre catholiques et protestants. Mais c'est très compliqué, parce qu'un royaume peut être grand comme ça, et un royaume peut être juste la ville de Erfurt, peut être une église unie, mais dans un territoire de la Thuringe qui est complètement luthérien. Par exemple, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens, et puis les gens, les paroissiens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que quand ils changent de Erfurt et ils vont dans la campagne autour, que finalement ce n'est pas la même église. Et ils savent pas que, ou ils savaient pas qu'à l'époque, il y avait des anathèmes entre réformés et luthériens, qui étaient déclarés au XVIe siècle, autour de plein de différentes choses, la double prédestination, et des choses comme ça qui sont vraiment pas du tout actuelles. Et en 1973, les églises réformées et luthériennes en Europe sont arrivés à signer un accord ensemble qui déclarait la communion ecclésiale, c'est-à-dire nous sommes une seule église. Nous sommes une seule église, mais c'est... J'essaie d'être mon ancien collègue catholique qui vit au même couvent que Hervé le Grand, hein, et qui me dit « Oui, mais c'est virtuel, votre église, votre communion ecclésiale, c'est une communion ecclésiale virtuelle, c'est pas réel, c'est juste... » du consensus différencié, il dirait. Voilà. Et c'est selon le consensus différencié, les luthériens et les réformés arrivent à dire « nous sommes une seule église ». Ça, c'est en 73. Et suite à cela, on commence à vraiment, mettre en valeur cette méthodologie. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Le consensus différencié. Voilà, mes petits dessins. Je vais peut-être aller là-bas. Vous m'excusez, hein, j'ai beaucoup de mal à marcher en ce moment. J'ai une sclérose en plaques, et de temps en temps, quand je suis en poussée, c'est un peu pénible. Consensus différencié, dialogue bilatéral. Hop. Deux églises, deux doctrines, ou deux façons de dire la même doctrine. Ça, cette partie-là au milieu, cette partie un peu plus colorée, c'est la doctrine. Et ça, autour, c'est un peu le système dans lequel la doctrine s'exprime. C'est l'Église, c'est le contexte un peu particulier. Alors, souvent, quand on a un dialogue, ça c'est le cœur de la doctrine, ça c'est vraiment c'est la doctrine, non, je ne vais pas dire pure parce que je ne pense pas que nos doctrines sont toujours pures, mais c'est la doctrine, c'est le cœur de la chose. Mais souvent quand on est en dialogue, on ne va pas jusqu'au cœur, on dit bon, vous les protestants, vous ne priez pas Marie, vous ne priez pas les saints, vous, mais on ne regarde pas ni pourquoi, on dit juste. Puis on dit, vous les catholiques, vous êtes toujours dans le rite, mais on ne regarde pas d'où ça vient. Et on ne regarde pas ni le contexte historique de la doctrine de son époque, on regarde juste tout ce qui s'est passé autour de la doctrine depuis des siècles. Et souvent, le dialogue qui se passe à ce niveau-là, on a tendance à ne pas beaucoup avancer, on reste vraiment dans des stéréotypes. Et on n'avance pas parce qu'on n'est pas, en train de regarder la question qui est au cœur du système.
et les systèmes historiques contextuels sont différents. Alors, ce que le consensus différencié préconise, c'est d'avoir... Oh, voilà, ça ne marque plus. Non, pas de blanchir, mais d'avoir... Voilà, de ne pas attirer sur l'autre, mais d'avoir le dialogue, vous voyez bien ce que je veux faire, qui est beaucoup plus comme ça pour aller au cœur du dialogue entre les doctrines, entre la doctrine de la justification selon l'Église catholique et entre la doctrine de la justification selon l'Église luthérienne. Et ce que cette doctrine veut expliquer aujourd'hui et voulait expliquer dans l'histoire, dans son propre système. Nous savons bien que le système luthérien n'est pas le même que le système catholique, mais est-ce qu'il y a vraiment des points où les deux systèmes peuvent s'expliquer mieux à travers un travail en profondeur sur la doctrine, sur les doctrines elles-mêmes. Et dans l'idéal, cela permettrait éventuellement voilà, à les superposer comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Vous voyez ce que je veux faire. Et ah oui, voilà, comme ça commence à venir. Et du coup, on a éventuellement ici un peu de terrain de consensus. Et on peut identifier de toute façon le terrain de consensus ensemble. On peut aussi identifier éventuellement le terrain où les différences persistent aussi. Hein. Et, c'est vraiment très beau, hein, mon dessin. Et ensuite, il faut passer, bon, je vais vous montrer, il faut passer au stade balance. Hein. Il faut essayer de juger un peu le poids du terrain de consensus et du terrain de différence. Et de voir quel est l'équilibre, comment la balance... qu'est-ce que la balance fait avec tout ça ? Peut-on dire que les terrains de consensus pèsent assez pour vivre avec les différences ? Ou est-ce que les différences sont encore trop grandes pour pouvoir dire finalement on peut arriver à un consensus différencié ? Parce que si vous lisez, et je ne vous le recommande pas, hein, mais si vous lisez les rapports des comités mixtes du monde entier, et puis pour la plupart c'est soit en anglais, soit en allemand, il n'y a pas énormément qui sont traduits en français malheureusement, vous allez voir qu'on n'arrive pas toujours à dire qu'on est arrivé à un consensus différencié. Mais cette méthode est sous-jacente dans beaucoup des travaux. C'est moins présent dans les comités mixtes catholiques orthodoxes, où je dirais, je ne sais pas si je devrais dire ça, vous n'allez pas mettre ça sur radio, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a beaucoup plus bras de fer dans ces situations-là. Je ne suis pas présente, je suis souvent en observation, invitée comme observatrice dans les comités mixtes, mais pas dans le comité mixte catholique orthodoxe en France, et je pense que c'est bien ainsi aussi, mais c'est très très costaud au niveau théologique, hein. C'est un peu frontal, et dans les équipes et entre les équipes, mais dans beaucoup d'autres comités mixtes, mais ils sont aussi en train d'essayer de trouver un terrain où ils peuvent être en accord, mais ils vont peut-être beaucoup plus faire peser là où ils ne sont pas d'accord et peut-être là où ils ne veulent pas être. Ils ne veulent peut-être pas trouver un consensus différencié ou pas différencié. Voilà, c'est peut-être beaucoup plus ça. Alors, je vous ai déjà donné un exemple de la Concorde de Leuenberg. Je vais en quelques instants vous lire un extrait de la déclaration sur la justification. Mais la Concorde de Leuenberg est très intéressant. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est ce qui est intéressant dans la Concorde de Leuenberg, c'est on explique les problèmes. On dit les luthériens pensent comme ceci, les réformés pensent comme cela, c'est ceci le problème. Et ensuite on dit, finalement, la pratique de l'Église a complètement dépassé les anathèmes que nous avons prononcés mutuellement depuis des siècles. Cette doctrine-là et ces anathèmes-là, non, ne sont plus du tout ce que nous sommes en train de vivre. La pratique de nos relations et la pratique ecclésiale, voilà. Nous déclarons que nous sommes en communion ecclésiale et non pas en la communion ecclésiale que nous pratiquons a dépassé ces doctrines-là sans devoir encore plus vraiment les travailler. Mais ça, entre des églises, pas seulement dans un seul pays, mais en Allemagne, en France, en Angleterre, en Écosse, je pense aussi les églises vaudoises d'Italie, les églises en Autriche, qui sont minoritaires aussi, et des églises aussi en Europe de l'Est, les églises tchèques, etc. Alors c'est, pour l'Église catholique, il y a toujours un peu d'espoir que peut-être un jour ou l'autre, il y aura une sorte de gouvernance de ces différentes églises dans la Concorde de Leuenberg, gouvernance d'épiscopée peut-être, qui pourrait être mise en place au niveau international. Ce serait un signe fort pour l'Église catholique, mais les résistances protestantes sont encore très fortes dans ce domaine-là. C'est très, très compliqué. Voilà. Alors, je vais avancer pour ne pas vous créer encore plus de sommeil que nécessaire. Je vais juste vous lire une petite partie de cet accord sur la justification. Je vais vous donner quelques lectures en plus. Où est-ce qu'il est ma lecture de ma copie de la voilà. Bon, c'est paragraphe 4 de toute façon de la doctrine. Ça viendra. Ça ne viendra pas parce que je... Ah voilà, c'est bon. Alors, la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. Mais ça porte différents noms, hein, ça, la déclaration commune sur la doctrine de la justification. Je vais juste vous lire le paragraphe 4. Dans leur discussion de la doctrine de la justification, tous les rapports de dialogue ainsi que les prises de position qui s'y réfèrent montrent un haut degré d'accord dans leurs approches et leurs conclusions. Ceci, c'est le rapport final. Hein, c'est... Le temps est mûr pour un bilan et une récapitulation des résultats des dialogues à propos de la justification, de telle manière que nos églises soient informées avec la précision et la concision qui conviennent des conclusions de ce dialogue et qu'elles soient en mesure de prendre position de manière autorisée. Ça, c'est important aussi. C'est pas la peine d'avoir le meilleur texte qu'on veut en œcuménisme. Si les églises et les autorités d'église s'en fichent, c'est pas la peine. C'est pour ça que surtout au niveau du Vatican, pour l'Église catholique, les personnes qui travaillent avec des responsabilités en œcuménisme sont souvent aussi... je ne veux pas dire en lien avec Rome, mais leur travail est surveillé, est lu, on va dire, beaucoup, parce qu'on ne veut pas qu'un pays va de l'avant dans certaines directions qui ne sont pas forcément la direction que tous les pays veulent en même temps. Et peut-être je vous encourage aussi à lire un livre protestant par un grand théologien français qui est, lui, parmi les personnes à l'origine du consensus différencié et du travail sur le consensus différencié. L'Institut œcuménique de Strasbourg, même si c'est en Alsace et pas vraiment en France, hein, a fait un travail remarquable sur d'abord la Concorde de Leuenberg, mais aussi pour l'accord, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant, la déclaration conjointe ou la déclaration commune sur la justification. Et André Birmelet a écrit un peu sa théologie de base il y a 3 ans, l'horizon de la grâce. Et ce qui est remarquable dans ce livre, c'est que il écrit une théologie de base protestante, luthérienne, mais dans une perspective œcuménique toujours. Et c'est pas de la lecture pour la plage, mais ça vaut vraiment la peine de lire ce livre, L'horizon de la grâce. C'est aux éditions du Cerf et aux éditions Olivetan. C'est publié par les protestants et les catholiques en même temps. Et je trouve très intéressant parce qu'il fait une analyse des accords sur la justification qui est très bien. Il dit finalement les catholiques ont insisté que ce soit un critère, la justification soit un critère de la foi. Et les luthériens ont voulu mettre que la justification soit le critère. Voilà. Et il donne aussi, il a cette perspective d'être un peu dans les coulisses du rapport et de nous expliquer cela. Et il fait ça très bien. Et comme ça, quand vous avez la chance d'aller écouter Hervé Le Grand, vous aurez peut-être déjà lu André Birmelet et ça vous donnerait un peu l'équilibre. Ce sont deux grands théologiens français qui sont de très bons amis. Ça va quand ils se rencontrent, hein, mais ils se comprennent, ils ont confiance l'un dans l'autre aussi. Et si jamais vous avez la possibilité de les écouter, vraiment je vous encourage à le faire. Hervé Le Grand a 80 ans, André Birmelet est un peu plus jeune, mais je pense que c'est important si vous avez cette possibilité-là de les lire. Je ne vais pas citer plus de choses à part ce livre-là, et je vais laisser ça. Je vais vous laisser un exemplaire, mon petit truc-là de la... sur l'accord de commune, l'accord commun, mais ce livre-là qui vient de sortir il y a deux, trois ans, du Confier à la communion, qui vient de sortir, qui propose les possibilités d'une commémoration commune entre catholiques et luthériens des 500 ans de la réforme. C'est un petit document, c'est pas très long, et on ne mentionne absolument pas le consensus différencié. Mais on n'aurait pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas le consensus, s'il n'y avait pas une méthodologie de consensus différencié. Et finalement, c'est ça. C'est une méthodologie, et de temps en temps, c'est une méthodologie qui dit son nom, et de temps en temps, c'est une méthodologie qui ne dit pas son nom. Et ça se lit vraiment très facilement, et je vais vous envoyer aussi, pour après, quelques liens vers des sites qui réduisent ça en 5 points pour que vous puissiez... voilà, avoir du pré-mâché. Je pense que je l'ai même tweeté ou quelque chose. Je ne doute pas. Mais ils ont d'autres lectures obligatoires à faire, n'est-ce pas ? Voilà. Je pense que c'est vraiment, en ce moment, c'est l'année prochaine, hein, la commémoration de la réforme. Il y aura plein de choses autour de ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et il y a par exemple, ça termine avec 5 pistes, 5 impératifs œcuméniques, et c'est pour dire on ne peut pas fêter Luther comme on a fêté Luther en 1917. En 1917, on était dans la Première Guerre mondiale. Luther était le sauveur de la nation allemande. Le mouvement œcuménique est passé par là. On ne peut plus... Et puis, je dirais, l'Union européenne est passée par là. Et il y a eu beaucoup de changements. Et puis, nous sommes aussi dans dans l'ère de la mondialisation aussi, dans la globalisation aussi. Nous ne pouvons pas, c'est pas seulement quelque chose d'allemand, le luthéranisme. Aujourd'hui, à Paris, les luthériens sont pour la plupart africains ou malgaches. Pour la plupart, hein. Il y a minuscule l'église luthérienne à Paris, mais les luthériens de Paris sont d'africains ou malgaches majoritairement. Hein. C'est très intéressant. Et les luthériens traditionnels de Paris ne veulent pas entendre ça, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, alors ces documents sont importants. L'Orenburg vous concerne moins, mais c'est très important pour le développement et la mise en valeur du consensus différencié. Vraiment, la doctrine sur la justification, l'accord sur la doctrine de la justification, ça vous concerne, c'est important, c'est assez technique à travailler, mais c'est une théologie importante où vous pouvez vous découvrir dans, on va dire, les différences qui restent aussi, hein, des deux côtés. Et du confier à la communion, c'est vraiment, je trouve le titre déjà extraordinaire parce que je pense que ça nous parle dans plein d'autres domaines aussi, du confier à la communion. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous essayer de travailler. C'est un travail sur l'historiographie, comment l'historiographie a beaucoup changé, la façon catholique de regarder la réforme, la façon luthérienne aussi de regarder le Concile de Trente, par exemple. Et toutes ces différentes choses-là, c'est un très grand travail. Et je vais terminer avec quelques petites piques contre le consensus différencié. Surtout parce que j'ai fait allusion au fait que j'étais pendant presque 10 ans au Conseil œcuménique des Églises. Je n'avais pas une fonction hautement théologique, hein. J'étais chef du service de traduction et d'interprétation, mais aussi avec des responsabilités dans le comité des cultes et dans les publications, dans la revue œcuménique, etc. Pour les piques contre la doctrine de la justification, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je pense que c'est hyper spécialisé. Il y a une théologienne catholique qui s'appelle Anne-Marie Meyer, qui est maintenant à Louvain, mais qui a enseigné en Allemagne. Elle dit que c'est du langage qu'on ne peut pas comprendre, quoi. Il faut vraiment être initié pour savoir de quoi il s'agit. Vous avez vécu ça ce soir, vous pouvez peut-être confirmer, hein, que c'est le cas. Mais je dirais aussi que le consensus différencié, est-ce que ça construit vraiment l'unité? Ou est-ce que cela nous permet finalement d'avoir une unité, un œcuménisme un tout petit peu bas de gamme? Ça pousse les choses vers le bas, sur ce qu'on peut dire. Et finalement, ça nous pousse non pas à travailler toujours l'unité, mais ça nous pousse aussi à voir ce que nos deux confessions ensemble peuvent dire ensemble, mais en reste de confession. Est-ce que cela nous pousse vers ce que le groupe des Dombes appellerait la conversion aussi de nos églises? Est-ce que l'église catholique insiste sur le dialogue bilatéral parce que l'église catholique peut garder son identité confessionnelle dans le dialogue bilatéral? Les autres églises ne veulent pas non plus perdre leur identité confessionnelle, hein, pour la plupart. Hein. Je pense qu'il y a là quelque chose à travailler au niveau du consensus différencié. Et en écoutant de nouveau mon collègue Franck Lemaître, qui est également dominicain, je dirais qu'il a aussi critiqué la nouvelle église protestante unie. Il a dit, mais finalement, c'est du consensus différencié. Les luthériens vont continuer à vivre en luthérien au sein de la nouvelle église. C'est pas tout à fait vrai. Il a eu tort parce que dans une partie de la nouvelle église, il y a déjà une région vraiment unie entre luthériens et réformés. Mais à Paris, ça reste encore le cas. Et est-ce que cela nous permet de vivre avec nos petites identités identitaires encore? Je pense qu'il y a là des choses à dire. Il y aurait là des choses à dire. Et je pense aussi à mon ancien chef, Konrad Reiser, qui était secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. Il se trouve que mon mari est en train de traduire le dernier livre de ce théologien allemand. Et lui, il insiste beaucoup plus sur la partie multilatérale et sur l'espace œcuménique, et non pas sur le micro-œcuménisme du consensus différencié, mais sur l'espace plus large œcuménique où nous pouvons faire vivre des projets, où nous pouvons aussi construire une voie prophétique ensemble et où nous pouvons aussi témoigner ensemble. Il faut dire que du conflit à la communion vise aussi le témoignage ensemble entre luthériens et catholiques. Alors cette critique est peut-être devrait la garder un tout petit peu plus mitigée. Et je me suis posée comme protestante le rôle de la sola scriptura dans un consensus différencié comme ça. Quel est le rôle de la Bible si on est seulement dans la doctrine? Quel est le rôle de la parole quand on est seulement dans du travail sur la doctrine? Je pense que ça pourrait être une critique plus protestante de cette approche-là, et venant en particulier aussi des réformés. André Birbelet est luthérien et il assume ça très bien au sein de nos différentes églises protestantes en France, mais je pense que ce serait quelque chose que les protestants réformés de toute façon français pourraient dire. Voilà. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Je pense que le problème avec le consensus différencié pour moi personnellement, c'est qu'il n'y a aucune vision d'une unité organique qui est envisagée. On se contente de ce travail entre experts quelque part, même si cela est reçu entre luthériens et catholiques de toute façon, mais ce sont deux communions assez fortes au niveau mondial aussi. Bon, l'Église catholique, par sa structure et par son ontologie, on pourrait dire, mais la Fédération luthérienne mondiale est aussi assez forte au niveau international. Mais d'autres communions mondiales n'ont pas cette même force et n'ont pas cette même autorité. Alors du coup, est-ce que cela a un intérêt pour ces églises-là? Voilà, j'ai terminé, je suis un peu longue, excusez-moi. Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir présenté tout cela. Je sais pas s'il y a quelques questions avant qu'on aille bientôt faire dodo.
Oui, voilà, vous allez pouvoir retourner au lit, moi aussi d'ailleurs.
Justement, vous parliez d'unité organique à la fin de votre propos. Ce qui m'étonne toujours un petit peu dans ce style de débat théologique, c'est que j'ai l'impression qu'au quotidien, dans la pratique œcuménique, qui ne dit pas forcément son nom, l'union qu'il va y avoir entre les chrétiens, elle ne va pas forcément suivre le périmètre des églises. Et en fait, là, je vois que quand on est dans les commissions théologiques, quand on parle de consensus différencié, on est dans ce périmètre des églises. Et par exemple, vous connaissez sans doute la situation aux États-Unis de dialogue entre les églises. Bah, typiquement, les clivages, par exemple, avec les chrétiens qu'on va dire conservateurs, des figures comme Richard Neuhaus ou tout ça, ils vont dire bah, le vrai clivage, c'est entre les chrétiens, entre guillemets, orthodoxes, qui soient presbytériens, luthériens, catholiques, et puis les chrétiens libéraux, sécularisés, entre guillemets. Ici, je ne sais pas, ça va être, par exemple, dans l'Église catholique, les gens qui vont aller échanger et prier avec des orthodoxes, et les gens qui vont aller échanger et prier avec des évangéliques, ou avec des protestants mainline, mainstream.
Je suis là en
mainstream. Voilà. Bon, c'est quand même des gens extrêmement différents. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est quand on se rapproche, est-ce qu'on ne crée pas des failles ailleurs? Vous voyez?
Moi, je pense que vous touchez du doigt. Moi, je l'aurais exprimé un peu autrement et je ne l'ai pas dit parce que vraiment pas de temps. Mais la situation des églises au niveau mondial et au niveau français, c'est chaotique et complexe. Et notre système des églises est en train de devenir de plus en plus complexe. Je peux juste vous donner un chiffre, pas un chiffre, mais le Conseil œcuménique des églises, quand il était fondé en 1948, avait environ 125 églises membres. Aujourd'hui, il y a 348 églises membres. Mais ce même Conseil œcuménique des églises, quand il était fondé, représentait une plus grande partie du christianisme à l'époque qu'il ne représente aujourd'hui. Alors, il y a plus d'églises, une plus grande diversité d'églises pour une plus petite partie du christianisme, avec le christianisme qui est représenté plus dans le Forum chrétien mondial, qui regroupe aussi toutes les églises du Conseil œcuménique des églises, le Vatican et les églises pentecôtistes et évangéliques. Et je ne pense pas que le consensus différencié répond à... Je ne suis pas convaincue que le consensus différencié répond à ce... à comment les gens vont pouvoir se rencontrer. Moi, je crois que nous avons besoin de nous rencontrer entre chrétiens. Je reste convaincue de cela. Avec ma commission œcuménique, nous avons créé un petit document qui s'appelle « Bien vivre la rencontre avec d'autres chrétiens », par exemple. J'y crois. Je ne pense pas que ça crée de nouvelles failles. Ça, je ne pense pas. Mais je pense que ça peut révéler des failles qui sont déjà là, et de temps en temps un manque de conséquences dans notre façon de vivre notre foi ou de ne pas vivre notre foi nous-mêmes. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la liquidité de l'Église, les églises plus liquides, les gens vont un peu ici et vont un peu par là. Bon, je vais partir au monastère pendant une semaine, mais je préfère finalement aller chez les évangéliques parce que ça bouge le dimanche. Voilà, on se fait une sorte de christianisme de wellness, ou pas forcément de wellness, mais tout simplement de consumériste un peu. Hein. Et cela marche relativement bien pour un christianisme de très forte conviction, mais de fortes convictions ouvertes. Est-ce que ça marche pour un christianisme qui est plus fluide et pour un christianisme qui est plus identitaire? Parce que nous voyons les deux tendances. Tout est devenu plus complexe. On ne peut pas dire tout est en train de devenir plus identitaire, parce que plein de choses sont en train de devenir beaucoup moins identitaires et beaucoup plus floues. Mais je ne sais pas si cette méthode-là aide.
Vous voyez, par exemple, ça ne va pas être long, mais sur la question de la justification, est-ce qu'il n'y a pas un plus fort clivage entre penser, en gros, que l'enfer existe et que la damnation est possible, ou que l'enfer n'existe pas ou qu'il est vide, et entre penser qu'on est justifié par la foi ou par les œuvres? Enfin, voilà, et le clivage sur l'enfer, il n'est pas entre des églises, et pourtant, il va sans doute être, en fait, beaucoup plus important dans la pratique que le clivage entre différents modes de justification.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens s'en fichent un tout petit peu de l'enfer, vous m'excusez de dire comme ça. Je pense que les gens aiment beaucoup plus parler des questions éthiques qui nous séparent. Pourtant, ce que nous avons vécu à la fin de l'année dernière, c'est qu'il y a une question éthique qui nous a vachement rassemblés et qui nous a fait travailler ensemble, et c'était la question de l'environnement et du climat. Nous avons eu une célébration œcuménique avec des personnes du monde entier à Notre-Dame de Paris. C'est du jamais vu. Hein. Il y a des célébrations œcuméniques à Notre-Dame régulièrement, mais comme ça, pas très souvent. Hein. Et on va attendre encore 20 ans avant de pouvoir le refaire, à mon avis. Mais même là, c'est complexe, on peut dire. Des questions éthiques, nous séparent. Moi, je pense que c'est beaucoup moins les questions de doctrine qui nous sépare en ce moment que les questions éthiques et éventuellement pastorales aussi autour du baptême, par exemple.
Voilà. Merci beaucoup, il va falloir qu'on...
Oui, n'est-ce pas ?
C'était passionnant, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir...
Je reviendrai une autre fois répondre à vos questions.
On a l'habitude de terminer par les conflits.
Ah, très bien. J'aime beaucoup.
Je vous en remercie quelque part.